of a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 22 novembre 2024. Nous émettons en direct de Washington DC, ici même aux États-Unis. Ce soir, nous parlons de cette guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie avec un focus particulier sur une décision importante prise par Joe Biden d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles balistiques. Dans l'Amérique et vous, ce soir, nous explorons deux annonces majeures. D'une part, les États-Unis, par la voix du président Joe Biden, qui ont autorisé l'Ukraine, on le disait, à utiliser des missiles à longue portée permettant à Kiev de mener des frappes en territoire russe. Cette décision intervient alors que la Russie a de son côté sollicité l'aide des soldats nord-coréens pour renforcer ses équipes. Autre annonce importante survenue ces dernières semaines, ou plutôt ces derniers jours, c'est une autre décision des États-Unis, celle de fournir des mines antipersonnelles à l'Ukraine. Une décision qui suscite un vif débat éthique et humanitaire. Critiquée par des ONG, cette mesure soulève des inquiétudes sur des conséquences pour les civils. Bien que Washington affirme que ces mines sont équipées des dispositifs d'autodestruction pour limiter les pertes, leur fiabilité reste, selon certains experts, sujette à caution. Ces développements mettent en lumière la complexité des soutiens militaires dans un conflit où les lignes rouges éthiques et stratégiques deviennent floues. Quel impact ces décisions auront-elles sur le terrain et pour la stabilité au plan international? Bien plus, comment les choix de l'administration Biden sont-ils perçus alors que Donald Trump s'apprête à revenir à la Maison-Blanche? Nos invités nous aideront à mieux comprendre tout cela et analyser les enjeux stratégiques et humanitaires de cette guerre qui a dépassé le seuil des 1000 jours. Et pour discuter de tout cela, nous avons comme invité ce soir Henri-Désiré Nzouzi. Et vous êtes à Bruxelles, en Belgique. Vous êtes journaliste et analyste politique. Henri-Désiré Nzouzi, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Ici à Washington DC, Calvin Dark est avec nous. Vous êtes analyste politique et cofondateur de RC Communication. Calvin Dark, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez à nouveau les bienvenus dans l'Amérique et vous. À Paris, en France, Nicolas Tenzer est avec nous. Vous êtes chercheur principal non résident au Centre d'analyse des politiques européennes. Vous êtes par ailleurs professeur invité à Sciences Po Paris et votre dernier livre s'intitule « Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique ». Nicolas Tenzer, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Alors, je commence avec vous, Nicolas. La décision de Joe Biden d'autoriser l'Ukraine à utiliser les missiles à longue portée pour des frappes plus profondes en Russie marque un tournant stratégique et décisif dans cette guerre. Quel impact cette décision pourrait-elle avoir sur l'escalade du conflit et même sur les relations entre la Russie et l'Occident ?
Alors, d'abord, c'est une bonne décision, bien sûr, même si nous sommes très nombreux à regretter qu'elle survienne si tard, avec si peu. C'est-à-dire que si cette décision était survenue beaucoup plus tôt, avec tous les moyens, c'est-à-dire pas seulement des missiles, en fait, à moyenne portée, parce que les attaquants américains, comme les Scalp français ou les Storm Shadow britanniques, en fait, ce sont des missiles à moyenne portée, à la différence, par exemple, des Tomahawks, qui peuvent atteindre 2000 kilomètres, ceux-ci ont une distance uniquement de 300 à 500 kilomètres. Donc, si ça avait été pris plus tôt, je pense que les Ukrainiens auraient pu gagner et que des dizaines de milliers de vies ukrainiennes auraient pu être sauvées. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, c'est très bien qu'elles interviennent. N'attendons pas néanmoins qu'en 2 mois, véritablement, il y ait un changement aussi important. Ce qui est aussi frappant, c'est de voir qu'aux États-Unis, il n'y a pas eu de réaction apparemment du camp américain et notamment du président élu, Donald Trump, ce qui voudrait peut-être dire que le président Biden lui en a parlé et que finalement, Trump est peut-être pas tellement en désaccord. Alors, votre dernière question, c'était sur la question de l'escalade. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il ne faut plus employer le terme d'escalade. La seule escalade aujourd'hui qui existe, malheureusement, c'est la Russie qui l'a fait, avec notamment l'arrivée de troupes nord-coréennes, avec depuis pratiquement 3 ans, et en fait, on pourrait dire plus de 10 ans, puisque la vraie guerre a déjà commencé le 20 février 2014, une escalade toujours plus forte. Nous, occidentaux, quand nous venons en aide à l'Ukraine, très insuffisamment, me semble-t-il, nous sommes dans la réponse et nous nous conformons à l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui prévoit qu'un pays agressé et que toute personne qui se porte à son secours, eh bien, sont légitimes à le faire. Alors, donc je crois qu'il faut vraiment voir ça dans cette perspective-là.
Alors Nicolas, permettez, est-ce que cette escalade-là, ce n'est pas plutôt les pays de l'OTAN qui l'ont provoquée en soutenant l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'OTAN, et puis cette Convention des Nations Unies dont vous parlez, c'est à géométrie variable. Il y a beaucoup de guerres qui se mènent dans le monde, non?
Oui, absolument. Il y en a beaucoup. Mais c'est pour ça que je dis que ce n'est surtout pas l'OTAN qui l'a faite. Bien sûr, la seule escale, la seule puissance qui escalade aujourd'hui, c'est uniquement la Russie. C'est uniquement la Russie. C'est bien cela. Et je crois que malheureusement, pour avoir étudié le régime de Poutine depuis maintenant plus de 15 ans, avoir alerté sur ce régime, quand je vois les crimes qui ont été commis en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie, en Afrique, de plus en plus malheureusement avec les crimes de Wagner et d'autres groupes supplétifs russes, je me dis qu'il y a vraiment une puissance qui, si on ne la vainc pas à un certain moment, provoquera encore plus le malheur et le chaos dans le monde. Mmh. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, il faut surtout, ne pas se contraindre par des soi-disant lignes rouges. Je crois que ça, ce serait une erreur absolument fatale.
D'accord. Henri-Désiré Zouzi, la présence de milliers de soldats, on l'évoquait tout à l'heure, nord-coréens en Russie pour renforcer les équipes de Moscou, soulève des inquiétudes quand même. Comment cette alliance inattendue pourrait-elle influencer le cours de la guerre en Ukraine et la dynamique même de la géopolitique mondiale?
D'abord, cette présence montre les limites que la Russie a atteint en termes de guerre conventionnelle, puisque en faisant appel à ses troupes, alors qu'il y a de cela quelques mois, c'était les drones iraniens, avec un certain nombre d'armements venus de Chine, on voit très bien que la tentation de Moscou est désormais de sous-traiter pour pouvoir pallier à ce manque d'efficacité observé sur le terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est que cela fait très longtemps, je pense qu'il faut remonter en des temps immémoriaux pour retrouver la trace de troupes asiatiques sur le sol européen, ce qui montre bien la bascule à laquelle nous avons assisté depuis maintenant février 2022, un monde complètement transformé avec des alliances improbable, avec des objectifs inavouables, mais avec surtout, et c'est ça qui est important, une véritable volonté d'en finir. Je note par ailleurs que, et je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Nicolas, c'est que l'on ne peut pas parler d'escalade s'agissant d'une partie d'un camp qui ne fait que se défendre, parce qu'il ne faudrait pas inverser les rôles et surtout ne pas faire le jeu de Moscou qui précisément joue sur les divisions apparentes de l'Occident pour faire avancer ses pions et entretenir la psychose à un moment très particulier de ce conflit.
Calvin Derck, est-ce que cette décision des États-Unis n'affaiblit pas l'administration Biden dans ce sens que pour certains observateurs, la Maison-Blanche semble ne pas respecter ses engagements internationaux?
Non, je crois pas, parce que je crois que Biden, depuis l'été, quand il s'est rendu compte que vraiment ces mois, ça va être la fin du chapitre pour l'histoire de Biden. Nous savons que ce qui se passe en Israël et la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça fait partie de sa legacy, comme on dit en anglais. Mm. Et alors, je crois que la réaction, il y a deux audiences, deux publics pour ça. Le premier, c'est nos alliés en Europe, parce que ces actions, ça change un peu, mais ce n'est pas suffisant de vraiment changer la guerre. Alors, c'est un message aux alliés qu'à partir de janvier, c'est possible qu'il n'y ait pas ce soutien de la part des États-Unis. Et alors, il a fait un pas en avant et il faut que les alliés en Europe pensent qu'est-ce qu'ils peuvent faire sans la participation des États-Unis à partir de janvier. Et je crois que le deuxième message, c'était aux républicains traditionnels qui opposent la Russie dans cette guerre avec l'Ukraine. Pas Donald Trump, mais je parle de Lindsey Graham, Marco Rubio, peut-être le prochain secrétaire d'État, et Mitch McConnell. Je crois que Biden a fait ça parce qu'il sait que Donald Trump ne peut pas mettre fin à la guerre dans la première journée, comme il a dit qu'il va le faire. Non. Au moins, il doit commencer avec les négociations avec Poutine. Alors, il ne va pas réimposer restrictions sur comment l'Ukraine peut utiliser les armes des États-Unis. Et je crois que ça, c'est un message républicain traditionnel, que même si Donald Trump ne veut pas soutenir l'Ukraine, au début, il doit suivre ce que Biden a fait parce que c'est ce que les républicains disent que Biden allait faire il y a 2 ans.
Mmh. Alors, on suivra bien cela hein, dans quelques semaines. Nicolas Tenzer, le président russe a estimé jeudi soir que ce conflit avait désormais tout d'une guerre mondiale et prévenu que des frappes contre les Occidentaux n'étaient pas exclues. Vladimir Poutine menace également de fournir des armes à longue portée à d'autres pays pour cibler l'Occident en réponse à l'utilisation des missiles à longue portée par l'Ukraine. Selon vous, ce type de menace est-il crédible et quels pourraient en être les risques pour la sécurité globale?
Alors, bien sûr, il faut toujours veiller aux risques, bien sûr, il faut les observer. Et je pense que, notamment les États-Unis, avec leurs satellites, ont tous les moyens pour détecter s'il y avait une quelconque menace. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce que moi j'observe maintenant depuis plus de 10 ans aussi, c'est que la menace nucléaire, notamment russe, les menaces de destruction, ce sont régulièrement procédés rhétoriques que le Kremlin utilise. Il l'a toujours fait. Il a parlé d'armes absolument terribles. Il a chaque fois parlé de lignes rouges. La réalité, c'est que chaque fois que des soi-disant lignes rouges ont été franchies pour répondre à la Russie, notamment en Ukraine, que ce soit, rappelez-vous, les frappes sur le territoire ukrainien de la Crimée, que ce soit le fait qu'il y ait des frappes sur le territoire russe, les Ukrainiens quand même en font depuis maintenant plus d'un an. Chaque fois qu'il y avait des nouvelles armes qui étaient envisagées, c'était déjà le cas pour les chars, ça a été le cas pour les F-16, chaque fois la Russie promettait des répliques absolument terribles. Voilà, et concrètement, rien n'est survenu. Donc je pense qu'il faut faire très attention, parce que le vrai risque, c'est que ce genre de discours qui vise à faire peur à l'Occident, finalement, ne continue à nous dissuader. Poutine, en fait, a très bien réussi à faire cela, parce que pendant 24 ans, alors que nous étions quelques-uns à demander en Géorgie, par exemple, en 2008, en 2014, en Ukraine, etc., que nous prenions vraiment des actions concrètes, y compris avec l'engagement de nos propres troupes, pour faire face à la Russie, eh bien, personne n'a voulu faire ça. Donc, ne nous laissons pas auto-dissuader. Arrêtons avec ces éléments de propagande russe que sont les risques d'une guerre nucléaire, une guerre entre l'OTAN et la Russie. Tout ça, ce sont des récits du Kremlin qui, malheureusement, parfois pénètrent même le langage ou les esprits d'un certain nombre de dirigeants occidentaux. Donc, vraiment, ne nous laissons pas impressionner. Fixons nous-mêmes les lignes rouges. Ce n'est pas à la Russie de les fixer.
Mais est-ce que l'Union européenne, l'Occident, est capable de se défendre sans l'OTAN, sans les États-Unis?
Alors, ça, c'est une autre question. Je pense que si nous le voulons, je pense que l'Union européenne, plus les autres pays européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Norvège, etc., eh bien, nous pouvons parfaitement nous défendre. Encore faut-il que nous ayons une claire conscience et que nos dirigeants aient une claire conscience que nous serons les prochains sur la liste si nous ne faisons pas que la Russie ait défaite totalement en Ukraine. Je crois que c'est ça qu'il faut prendre conscience. J'entends parfois des dirigeants occidentaux, européens, qui disent « nous ne sommes pas en guerre avec la Russie ». La réalité, non, c'est que la Russie nous fait déjà la guerre. Voyez les incendies provoqués sur le territoire de pays européens, des projets d'attentats terroristes, des attentats terroristes qui ont réussi parfois. Tout ça, ce sont des actes de guerre. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, nous devons y répondre plutôt que d'essayer de voilà, de dire ce n'est pas grave, de les qualifier de menaces hybrides, alors que c'est beaucoup plus que ce qu'on appelle des menaces hybrides, ce sont véritablement des actes de guerre directe.
Henri-Désiré Nzuzi, les États-Unis ont aussi décidé de fournir des mines antipersonnelles à l'Ukraine, malgré leur interdiction internationale. Comment interprétez-vous cette décision de la Maison-Blanche? Ça, c'est d'un. De deux, on a l'impression que les médias internationaux ne parlent pas ou ne montrent pas l'aspect humain de cette guerre. On ne sait pas. Est-ce que des gens souffrent? Qui sont-ils? On voit rarement des images de tous ceux qui souffrent de cette guerre, aussi bien en Russie qu'en Ukraine.
Vous savez, je dirais que le maître mot aujourd'hui, c'est que la fin justifie les moyens. Lorsque vous avez en face de vous un adversaire qui utilise les moyens les plus ignobles pour vous anéantir, lorsqu'il utilise des armes qui ont la capacité de faire des dégâts considérables, vous êtes obligé, à un moment donné, d'envisager d'autres options. Alors, effectivement, vous faites mention d'armes qui ont fait l'objet de conventions internationales limitant ou interdisant leur utilisation, mais je pense qu'en temps de guerre, il y a un moment où il faut se poser la question de savoir quel est le moindre mal. Ici, c'est un débat qui pointe à l'horizon et qui, je vous fais le pari, a dans une dimension à la fois psychologique où il faut, d'une part, marquer les esprits en brandissant le spectre d'une guerre nucléaire. Et lorsque vous avez la possibilité d'utiliser des moyens pour vous défendre, on essaie de vous culpabiliser sur leur usage. C'est un vrai problème qu'il va falloir résoudre et surtout qui devrait inciter les dirigeants occidentaux, on parlait tout à l'heure effectivement de la capacité de l'Europe à se défendre, c'est de sortir justement de cette rente sécuritaire héritée de 1949, hein, année de la création de l'OTAN, pour essayer justement de se déterminer et de ne pas attendre que d'autres fassent cet effort. Il faut effectivement qu'il y ait une prise de conscience collective, une mutualisation des efforts, mais il ne faut pas se leurrer. Ça va être extrêmement compliqué de pouvoir mettre d'accord des gens qui sont, pour la plupart, je dirais, favorables à ce que le parapluie américain puisse être maintenu lorsqu'il y a une absence totale de dispositifs de défense européens.
Et l'envers du décor de cette guerre, les humains?
Alors, évidemment, pour chaque conflit, comme dans toutes les guerres, vous avez le lot de victimes. Mais encore une fois, ce sont maintenant devenus des variables d'ajustement. Et c'est ça qui est finalement injuste, parce que finalement, elles n'ont plus droit au chapitre. On passe d'un sujet à l'autre sans tenir compte des conséquences pour l'avenir. Et ça, c'est un véritable problème de société qu'il va falloir résoudre.
Calvin Dark, l'élection de Donald Trump et ses critiques envers le soutien militaire américain à l'Ukraine introduisent une incertitude politique, on va dire. Pensez-vous que cela pourrait affaiblir la position stratégique des États-Unis dans ce conflit et avec ces décisions de dernière minute, j'ai envie de dire, que l'administration Biden est en train de prendre?
Je crois que si vous soutenez la vision de Donald Trump, ça n'affaiblit pas la position américaine parce qu'il veut pas être le police du monde. Il veut pas être engagé à l'Amérique engagée comme avant. Alors pour Trump, je crois que s'il peut arriver à marcher avec Poutine, bien que ça soit le contraire, surtout le contraire de ce que voulait le Parti républicain depuis les années 80, ça c'est quand même une victoire de Donald Trump. Mais je crois que cette question de l'élection, c'est très important parce que je cite un exemple de comment les arguments de Trump étaient très, très efficaces. Je suis à Washington, mais je suis du Caroline du Nord. Et on sait qu'avant les élections, il y avait le Oregon dans mon État. Maintenant, Donald Trump, il a dit, et les républicains disent que jusqu'à ce point, l'aide militaire pour l'Ukraine, c'est 175 milliards de dollars. Nous savons que cette question, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que une grande partie de ça rembourse les compagnies américaines qui restockent les armes aux États-Unis. Mais en gros, ça, c'est le chiffre qui est dans les infos. Mm-hmm. Alors, maintenant, le gouverneur, il demande un paquet d'aide, d'assistance de 25 milliards de dollars. Et il y a ce débat si ça, c'est trop, si ça, c'est suffisant. Alors, si je suis un électeur dans mon État et je vois que les États-Unis a dépensé 175 milliards de dollars pour l'Ukraine, mais maintenant, ce n'est pas sûr qu'il va donner 25 milliards de dollars pour mon État qui était victime de l'ouragan. C'est clair qu'on peut voir comment Donald Trump a convaincu ses électeurs de soutenir la position de Donald Trump.
Tout à fait. Nicolas Tenzer, parlons toujours de cette guerre en Ukraine. Vous dites dans votre livre qu'on a cité en début de cette émission, la guerre russe contre l'Ukraine n'est pas une anomalie, mais qu'elle est le reflet d'un monde en proie à un révisionnisme systémique et insidieux. Expliquez-nous pourquoi et comment on en arrive à ce révisionnisme.
Mais on en arrive à ce révisionnisme parce que je crois que la plupart des dirigeants occidentaux n'ont pas voulu regarder, notamment du côté russe, mais on pourrait ajouter du côté chinois, syrien, nord-coréen, iranien, etc., n'ont pas voulu voir la première réalité de ce régime qui est le crime de masse. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes parti, vous savez, à la suite de l'héritage de la Seconde Guerre mondiale et notamment du tribunal de Nuremberg, et vous aviez eu la fameuse phrase « never again », plus jamais cela. Et puis, à quoi on a assisté ? On a assisté à des tragédies au Soudan, par exemple, qui a été un des pires génocides du début de ce siècle. En Syrie, 1 million de morts dus essentiellement à Bachar el-Assad et à la Russie de Poutine. On a eu bien sûr avant Srebrenica en ex-Yougoslavie, etc. Et tout ceci, finalement, les dirigeants considéraient que c'était une sorte de nouvelle et l'ont accepté. Et on n'est pas intervenu. Rappelez-vous, par exemple, les lignes rouges qu'avait définies le président Obama pour l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Quand on est survenu un bombardement, celui de la Ghouta, il y en a eu d'autres après, il n'est pas intervenu. Nous ne sommes pas intervenus également, je le disais, en Géorgie, en Ukraine en 2014. Et en fait, on a laissé se faire le crime. Et on a traité aussi M. Poutine et d'autres dirigeants sanguinaires comme si c'était des dirigeants normaux. Alors qu'en face, c'était des gens qui ressemblaient, pour ne pas parler toujours de Hitler, mais qui étaient en fait des terroristes au même titre qu'Osama Ben Laden ou que Abu Bakr al-Baghdadi, le patron d'ISIS. Voilà. Et c'est ça, je pense, qui a été vraiment l'une des fautes principales, c'est ce silence et cette inaction devant le crime de masse. Et donc, ça l'a normalisé.
Malheureusement, le temps nous prend par la gorge. On va faire un dernier tour de table, 20 à 25 secondes pour chacun. Henri Désiré Nzuzi, Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de couper les vivres à l'OTAN. Comment voyez-vous cette organisation sous son règne?
Non, mais c'est une manière de mettre la pression sur les Occidentaux, les Européens, en leur demandant de faire davantage d'efforts et de sortir de cette rente sécuritaire dans laquelle elle s'est enfermée depuis 75 ans. C'est un juste retour des choses et une manière de placer chacun devant ses responsabilités.
Calvin Dark, une possibilité de paix dans cette guerre avec Donald Trump, il a dit qu'il y mettrait fin en 24 heures.
Oui, je sais qu'il dit ça toujours sans un plan. Je crois que la fin de la participation des États-Unis, c'est possible dans une journée. Et je crois qu'il y aura la paix, mais la question, c'est à quel prix pour l'Ukraine et pour nos alliés en Europe.
Alors, Nicolas Tenzer, vous voyez une certaine capitulation de la part de Vladimir Poutine. Vous pensez qu'il va accepter de perdre?
Alors, moi, Poutine poursuivra jusqu'au bout. Il poursuivra sa guerre, même si ça devait coûter 2 millions, 3 millions d'hommes à la Russie. Il poursuivra jusqu'au bout. Et s'il devait arrêter un moment, ce serait pour reprendre la guerre 2 ans, 3 ans après. Donc les Ukrainiens, de leur côté, ne sont pas prêts à céder. Chaque fois que je suis retourné en Ukraine depuis le début de la guerre totale, 5 fois depuis le 24 février, j'ai vu des gens toujours, évidemment avec une souffrance intense, mais toujours résolus. Vous savez, c'est ce que disait une députée ukrainienne, je terminerai par cette phrase. Elle disait, si nous continuons à nous battre, nous aurons des milliers de victimes en plus. Si nous nous rendons, nous en aurons des...
Merci Nicolas. Cette émission arrive à son terme. Amérique et vous, produite par Michel Joseph. John Linden était à la présentation. Merci d'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur VOA Afrique. Bonsoir.